Chico.
Bonjour à tous, deuxième journée des journées de l'économie sur le thème du progrès social. Et nous avons aujourd'hui le privilège de rencontrer Patrick Artus, chief économiste à Natixis et professeur à Parium, membre du Cercle des économistes et du Conseil d'analyse économique. Alors, on va commencer peut-être par une question d'actualité à propos du nouveau dérapage du déficit anticipé pour 2014, symptomatique d'une course du chat et de la souris entre récession et déficit public. On voit que les marges de manœuvre sont très réduites, les marges de manœuvre budgétaires sont très réduites du fait de l'endettement fort de l'État et que les marges de manœuvre monétaires sont faibles avec un taux d'intérêt proche du plancher. Par conséquent, à votre avis, quelles seraient les politiques structurelles à mettre en place dans cette situation, des politiques structurelles qui pourraient être peu coûteuses et qui pourraient rapporter en croissance ?
Je crois d'abord que vous décrivez bien le problème. En France, mais pas seulement en France, en Italie aussi, on a un cercle vicieux qui est qu'il y a peu de croissance, il y a peu d'inflation, donc il y a peu de recettes fiscales. Et donc même en faisant un effort sur les dépenses publiques, on n'arrive pas à réduire le déficit. Avec un risque qui est qu'on sait, d'après des travaux de recherche récents, que lorsqu'on est en situation de sous-emploi et qu'on essaie de réduire le déficit, ceci a un effet négatif qui est fort sur l'activité. Donc on est bien dans le cercle vicieux que vous décrivez. La seule façon de s'en sortir sans sombrer dans cette dépression qui s'auto-entretient, c'est effectivement d'augmenter la croissance potentielle, c'est-à-dire d'augmenter la croissance de long terme. Et on connaît à peu près les problèmes de la France en particulier, mais qui sont assez voisins de ceux d'autres pays comme l'Italie, qui sont qu'il y a un sous-investissement des entreprises important, une sous-modernisation du capital. Hein, le capital vieillit, il s'est peu modernisé, il est peu robotisé dans l'industrie. Et donc, si on veut sortir de ce piège, il faut absolument être capable de moderniser l'appareil productif pour avoir davantage de croissance, regagner des parts de marché à l'exportation, être capable de vendre des produits plus compliqués, donc qui se vendent plus cher, et refabriquer des marges pour les entreprises. L'ennui, c'est que même si on voit des signes de frémissement, hein, les créations de start-up qui sont très nombreuses, on sent qu'il y a un peu de bouillonnement sur le terrain des petites entreprises, des entreprises technologiques, tout ceci va prendre énormément de temps. Dans toutes les expériences historiques, on voit que quand on commence à faire des politiques de l'offre, hein, à aider les entreprises à investir plus, par exemple en baissant les impôts des entreprises, ce que font les Français, ou en réformant le marché du travail, ce que font les Italiens, il faut 3 ans, 4 ans avant qu'on commence à voir un effet sur la croissance. C'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 2000 et avant au Canada, en Suède, en Australie, etc. Donc le problème, c'est que le cercle vicieux entre la croissance et le déficit, il risque de durer encore 3 ans. Quoi. Et donc il ne faut pas entretenir l'illusion que le trimestre prochain, les choses vont aller mieux, quoi, parce que ce sont des processus de remontée en gamme des entreprises, hein, et de l'appareil productifs qui sont des processus extrêmement longs. Alors, sur les réformes, il y a quand même un assez grand consensus en disant qu'en France, on a deux problèmes, il y en a plein à faire. Hein, ça, bon, mais si on veut isoler deux réformes essentielles, il nous semble qu'aujourd'hui, il y a une première réforme essentielle qui est la réforme du contrat de travail. On a une segmentation complète du marché du travail, hein, entre des salariés protégés, qui sont plus âgés, qui sont plutôt dans les plus grandes entreprises, qui sont plutôt plus qualifiés, qui sont bien protégés, hein, par le code du travail, et puis des salariés extrêmement peu protégés, qui sont plutôt plus jeunes, plutôt moins qualifiés, et plutôt dans les plus petites entreprises, et plutôt dans les services. Et donc on a un ajustement du marché du travail qui se fait sur une minorité de la population, qui est la partie de la population qui se trouve au chômage quand ça va mal, dont les salaires sont faibles. Et ceci est un énorme problème, c'est un problème d'équité, certes, mais c'est aussi un problème d'efficacité, puisque les salariés protégés n'acceptent pas la modération salariale qui permettrait de réembaucher les salariés peu protégés. Donc il faut réussir à avoir une organisation du marché du travail qui puisse générer de la modération salariale quand il y a du chômage. Et le second problème, évidemment, c'est le problème de la formation professionnelle. La formation professionnelle en France, ça coûte 32 milliards d'euros par an, avec des résultats quasi nuls. Donc il faut absolument travailler sur le fond, pas seulement sur l'organisation, il y a une loi sur la formation qui a été mise en place, mais sur le fond, c'est-à-dire à quoi on forme les salariés pour qu'ils retrouvent un travail. Et ça, ce travail-là n'a pas été fait.
Et justement, est-ce que ces réformes ne seraient pas liées, puisque d'un côté, on sait que la formation bénéficie principalement aux travailleurs qualifiés déjà installés dans l'emploi, alors que les outsiders n'en bénéficient pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, un double bénéfice à faire une réforme ?
Bien sûr, vous avez complètement raison. Les chiffres sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que la formation professionnelle, elle est plutôt donnée à des salariés plutôt qualifiés et plutôt des cadres, donc plutôt les grandes entreprises. Et après, vous avez, alors Emmanuel Macron s'est exprimé de façon un peu violente sur le sujet, mais enfin, vous trouvez des salariés dans des peu qualifiés, c'était GAD, dans des entreprises dont on s'aperçoit qu'en 30 ans, ils n'ont pas eu une heure de formation, quoi, ou une heure de formation qui leur apporte quelque chose. Donc effectivement, il faut réorienter la formation professionnelle, comme on le fait, vous savez, ce qu'on appelle la flex sécurité dans les pays nordiques. C'est-à-dire, il faut réorienter la formation vers les salariés qui en ont besoin, parce qu'on sait qu'ils sont dans des métiers peu qualifiés, dans des entreprises qui peuvent disparaître, parce que on n'a pas quand même de grande légitimité en France à avoir des entreprises très bas de gamme qui sont concurrencées par les entreprises de pays émergents où les salaires plus faibles. Donc il faut réorienter la formation professionnelle vers ceux qui auront besoin de changer de métier. Et pas vers ceux qui sont dans des emplois stables, dans des entreprises qui vont bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué, que les PME préfèrent à la limite payer des impôts pour alimenter les budgets de formation plutôt que d'organiser de la formation, parce que ça les désorganise et c'est compliqué. Ce sont pas des directions de ressources humaines capables de gérer ça. Et puis, voilà, il y a un vrai problème qui est effectivement le recréer de l'employabilité pour les salariés qui ont des métiers routiniers peu qualifiés pendant de très longues périodes de temps.
Et puisqu'on prend souvent l'exemple de l'Allemagne, est-ce qu'en Allemagne, le système de formation est plus efficace ?
Alors là, il faut inclure la formation initiale aussi. Quand vous comparez la France et l'Allemagne, ce qui est intéressant, si on fait trois niveaux de qualification. Donc le plus bas, c'est les salariés qui n'ont pas atteint le bac, pour mettre ça dans le cadre français. C'est la classification que fait l'OCDE. Le second niveau de formation, c'est les salariés qui ont bac plus, donc bac ou quelques années. Et puis le troisième niveau, c'est les salariés qui ont un diplôme du supérieur. Et quand vous prenez les salariés les moins qualifiés, il n'y a pas beaucoup de différence entre la France et l'Allemagne. En ce moment, il y a 21% de non qualifiés au chômage en France et 18% en Allemagne. Et donc la grosse différence, elle est dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire bac ou bac plus un petit peu. Là, vous avez 5% de chômage en Allemagne et de mémoire 12, je crois, en France. Donc le système allemand, il est efficace pour les salariés un peu qualifiés. Parce que c'est là que vous avez la formation en alternance, les universités techniques, ou d'ailleurs la prise en charge de la formation par les entreprises. Donc les Allemands ont résolu le problème des qualifications moyennes. Pour les qualifications supérieures, il y a le chômage nulle part. C'est entre 3 et 4% de chômage dans les deux pays. Donc les Allemands ont résolu le problème des qualifications moyennes, moyennes faibles, que les Français n'ont pas du tout résolu. Par contre, ni les Français ni les Allemands n'ont résolu le problème des qualifications très basses ou de l'absence complète des salariés très très peu qualifiés. Donc là, système allemand, on voit bien, c'est un système qui marche bien pour des salariés de niveau intermédiaire, qui vont rentrer dans l'apprentissage, qui vont être entre une école technique et l'entreprise et qui vont trouver un travail. Par contre, c'est les gens extrêmement peu qualifiés, le système allemand ne les ramène pas à l'emploi non plus parce qu'ils ne sont pas non plus dans le système d'alternance. Le système d'alternance, c'est comme des salariés qui passent des diplômes. Donc voilà, donc les Allemands ont réglé un problème qui est le problème des niveaux intermédiaires, mais sur les très peu qualifiés, aucun des deux pays n'a réglé le problème.
Et pourquoi certaines réformes comme le contrat de génération qui auraient pu permettre une qualification plus grande des jeunes, de certains jeunes non qualifiés, en fait échoué ?
Je vais dire des choses extrêmement violentes. Je pense qu'il y a une très grande... les réformes font toujours des perdants. Et alors, quand vous réformez les prothèses dentaires, les gens qui sont les perdants, ça va être les dentistes et les prothésistes. Donc, c'est une toute petite catégorie sociale. Ils ont du mal à bloquer le pays, Quand vous faites les réformes du marché du travail, vous menacez les 75% de Français qui ont un CDI. Donc, effectivement, vous avez une immense majorité des Français qui est a priori opposée aux réformes du marché du travail. Donc, c'est très compliqué de faire des réformes du marché du travail. Et ces 75% de Français sont hostiles à toute flexibilisation. Il faut quand même l'admettre, qui est un énorme problème. Je dirai un mot de l'Italie dans une seconde. Et donc, toute flexibilisation du marché du travail, y compris qui ne les concerne pas, puisque c'était le contrat de génération concernait les jeunes entrant sur le marché du travail et ont des difficultés et pas les salariés en CDI, hein, bah, ils luttent contre. Donc en fait, on a une espèce d'instrumentalisation des jeunes par les salariés protégés, quoi. Mais ça, on sait que ça recommencera. Donc les salariés protégés sont bah, c'est normal, c'est normal, c'est, en tout cas c'est compréhensible, ils veulent pas être moins protégés. Personne ne propose d'ailleurs de protéger moins les salariés protégés. Parce que si on faisait le contrat unique, hein, qui était suggéré par pas mal d'économistes, ça ne s'appliquerait qu'aux nouveaux contrats de travail. Hein. On ne changerait pas les contrats de travail anciens. Donc les gens qui ont un CDI aujourd'hui garderaient leur CDI. Hein. N'empêche que vous avez une énorme hostilité à toute forme de flexibilisation du marché du travail. Il faut en être conscient. Et tous les gouvernements se heurtent à ça. Et donc, en fait, quoi que vous fassiez qui flexibilise, y compris sur des bouts de catégorie, vous aurez la majorité de l'opinion qui sera contre. Alors Renzi, en Italie, le Premier ministre italien, qui s'en est bien rendu compte, a décidé qu'il allait sauter, en fait, par-dessus les corps intermédiaires. Donc il allait passer en force le projet de loi sans discuter avec les syndicats ou avec le patronat. Parce qu'il ne faut pas croire que le patronat, quand vous parlez au patronat, de façon assez surprenante, ils sont hostiles à toute réforme du marché du travail. Le patronat vit très très bien la situation actuelle. Ils ont 75% de leurs salariés fidélisés en CDI qui ne vont pas quitter l'entreprise. Et ils ont 25% des salariés en CDD en intérim et qui leur donnent une énorme flexibilité de l'emploi dans les crises, dans les récessions. Donc le patronat n'a aucune envie qu'on réforme le marché du travail. Les seuls qui ont envie qu'on réforme le marché du travail, bah, c'est ceux qui deviennent chômeurs quand ça va mal, c'est-à-dire les jeunes, les peu qualifiés, les intérimaires, etc. Et c'est une toute petite minorité. Donc il faut se rendre compte que les réformes du marché du travail, elles ne peuvent pas se faire par voie démocratique. En réalité, tristement, si vous mettez en référendum les réformes du marché du travail, il y aura un non massif. Et donc, alors, il y a la technique Renzi qui dit, bon, ben moi, j'ai raison, il faut le faire, c'est bon pour le pays, donc je fais vote bloqué au Parlement et je demande l'avis de personne.
Et en offrant une compensation aux gens à qui on extrait une rente, ça serait pas une solution?
Oui, mais là, on extrait de rente à personne, puisqu'à nouveau, personne ne suggère de transformer les contrats de travail déjà signés. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir de maintenant, c'est ce qu'on a fait, par exemple, quand on a privatisé les grandes entreprises publiques, en Allemagne, la Bundesbahn, ou en France, la France Télécom, hein, quand on a privatisé les grandes entreprises publiques, les salariés qui avaient des contrats de droit public ont gardé leurs contrats de travail. On n'a jamais cassé les contrats de travail existants. On peut pas. Quelqu'un qui a une rente, en général, il a payé la rente. Donc si vous êtes fonctionnaire, vous avez une rente parce que vous n'êtes pas licenciable, mais vous l'avez payé parce que normalement vous êtes moins bien payé que si vous êtes dans le privé. Quoi, hein, donc vous ne pouvez pas prendre à quelqu'un une rente qu'il a achetée. Même chose pour les taxis ou pour les pharmaciens ou les notaires. Donc si vous supprimez une rente, il faut indemniser celui à qui vous prenez sa rente. Mais sur le marché du travail, le problème ne se pose pas, puisque personne ne suggère de changer à nouveau les contrats de travail qui sont déjà signés. On dit simplement, à partir de maintenant, les nouveaux contrats de travail seront différents. Et donc on enlève de rente à personne.
Une dernière question à propos du rétablissement rapide des États-Unis comparé à une agonie qui semble ne pas se terminer de l'Europe, en particulier de la France. Est-ce que cette situation différente vient de politiques économiques qui auraient été différentes au moment de la crise? On peut penser à des politiques monétaires plus rapidement tournées vers le quantitative easing aux États-Unis. Ou est-ce que ce sont des facteurs antérieurs, structurels en fait?
Il y a deux époques, hein. Il y a 2010-2011, où ce qu'on voit aux États-Unis, c'est une reprise qui est tirée par la politique monétaire, avec un mécanisme d'ailleurs qui n'existe pas en Europe, qui est que lorsqu'on fait une très forte expansion monétaire, ça fait monter les prix des actifs, hein, des actions, de l'immobilier, ça crée donc un effet de richesse, hein, les propriétaires de ces actifs sont plus riches, et aux États-Unis, immédiatement, ils se mettent à consommer davantage et acheter davantage de maisons, vous avez ça aussi au Royaume-Uni, ceci n'existe pas en Europe. Donc le début du redémarrage des États-Unis, comme aujourd'hui le redémarrage du Royaume-Uni, c'est un effet de richesse lié complètement à la politique monétaire, au quantitative easing. Après, ce qui se passe depuis 2011 est complètement différent, puisque ce que vous avez depuis 2011, c'est une très forte reprise industrielle, dans plein d'industries, hein, dans toutes les industries autour de l'énergie, mais aussi dans les biens d'équipement, dans l'auto, dans l'aviation, dans la construction des avions, dans la chimie, dans le caoutchouc, dans le pneu, dans le plastique, etc. Et ceci se fait pour deux raisons qui s'enchaînent, qui sont le faible coût du travail aux États-Unis par rapport à beaucoup d'autres pays, surtout dans les États du Sud, hein, qui sont l'endroit où se passe cette réindustrialisation. Et l'autre raison, c'est le faible coût de l'énergie et l'abondance de l'énergie aux États-Unis. Et donc là, c'est un effet de compétitivité-coût à la fois sur le travail et sur l'énergie qui recrée une énorme attraction des États-Unis pour les implantations industrielles. Il y a plein d'investissements industriels aux États-Unis, venant des États-Unis, mais venant aussi de plein d'autres pays, plein d'entreprises étrangères qui investissent aux États-Unis dans tous ces secteurs. C'est pas sûr. Alors, et donc, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est cette croissance qui vient de l'industrie et qui est robuste et qui va continuer parce qu'on n'est qu'au début de ce processus de réindustrialisation. Cela étant, il n'est pas certain que ce modèle soit accepté en Europe parce qu'essentiellement dans ce modèle, il y a un, la flexibilité des salaires. Les salaires dans le Sud ont baissé, mais de façon considérable. Les salaires dans le Sud des États-Unis sont la moitié du niveau européen. C'est que les salaires aux États-Unis n'augmentent pas en moyenne, mais là, dans les États du Sud, ils ont vraiment baissé. Et deuxièmement, c'est l'énergie, quoi. C'est le gaz de schiste, c'est le pétrole non conventionnel qui fait qu'il y a plein d'énergie pas chère. Et donc, en fait, c'est une reprise qui est basée sur la flexibilité salariale et les énergies fossiles. Donc, c'est quand même normalement quelque chose que les Européens aiment pas. Et dernier point, c'est une reprise qui est une reprise agressive, au sens où une partie importante de ce qui se passe aux États-Unis, c'est du transfert aux États-Unis de capacités de production qui étaient avant dans le reste du monde. La chimie européenne part aux États-Unis, une partie de l'aéronautique européenne, de l'aérospatiale va partir aux États-Unis. Donc on a une compétitivité coût très forte, mais sans doute sur un modèle que nous n'avons peut-être pas envie d'importer, quoi.